Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Et c'est bon, nous sommes en ligne avec Marion Laure Blanchet. Salut Marion, comment vas-tu?
Salut Bart, moi très très bien, ça va très bien, j'espère que toi aussi.
Ouais, écoute, c'est une période que j'adore moi pendant les fêtes. Merci de t'être rendu dispo à ce moment-là. C'est un moment où tu vois, je réécris mes objectifs, j'ai mon petit carnet que je te montre juste là dans lequel j'écris un petit peu mon quotidien, mes objectifs de l'année, tu vois, qui sont là, la méthode des 90 jours. Et du coup, c'est une période, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai le cerveau en ébullition. Et comme je sais qu'on va parler fixation des objectifs, comment s'y tenir, un peu de discipline, comment créer un plan d'action, je me dis que je suis avec la personne idéale pour le faire. Donc, je sais que j'ai passé un chouette moment. Donc, je suis très heureux aujourd'hui.
Bah, idéal, je sais pas si je suis la personne idéale, mais quoi qu'il en soit, voilà, je pense que voilà, je vais essayer d'apporter un petit peu ma vision sur ça, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel. Et puis après, bah, moi aussi, c'est vrai que c'est une période que j'aime bien, d'ailleurs, où je suis parfois plus disponible parce que, comme tu dis, on a le temps de se poser les objectifs. On a le temps également de faire le bilan. Et je trouve que c'est des périodes qui sont un petit peu off, qui sont importantes pour bien démarrer l'année, autre que des bonnes résolutions toutes simples, mais voilà, je pense que c'est des périodes assez sympas, et puis voilà, on a le sapin qui est illuminé, donc c'est toujours sympa aussi.
Ouais, exactement. Non mais c'est t'as trop bien résumé. C'est vrai qu'on a, moi j'ai besoin en tout cas de ces périodes-là où je coupe un peu, t'as ta famille autour de toi, tout ce qui se passe autour, on s'en moque un petit peu plus, tu vois, et on essaye de se concentrer sur soi. C'est vrai que ça fait vraiment du bien. Écoute, j'ai vraiment hâte qu'on parle de tous ces sujets-là et qu'on puisse parler effectivement de préparation mentale, de développement personnel, de confiance en soi, de tous ces sujets qu'aujourd'hui tu transmets à d'autres et notamment à beaucoup de sportifs de haut niveau. Mais avant ça, tu as eu une première vie et j'ai beaucoup envie qu'on en parle aussi parce que c'est une première vie qui m'intéresse tout particulièrement parce que c'était dans le triathlon et que bah, j'ai été pendant longtemps triathlète, donc forcément ça nous fait un point commun en plus. Mais comme tu le sais, il y a une tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance et ouais. Savoir un petit peu qui tu étais plus jeune, qui était la Marion quand elle était une enfant. Et c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, quel enfant j'étais? J'étais une enfant assez rêveuse, pour le coup. J'avais pas spécialement l'esprit de compétition. Je sais pas d'ailleurs si j'avais l'esprit de compétition, mais c'était pas ce qui était dominant. C'était plus le côté de... voilà, faire des choses qui étaient un petit peu qui sortaient parfois un peu des sentiers battus. J'étais pas une rebelle pour autant, hein, pas du tout, mais voilà, j'avais ce petit côté un petit peu je dirais rêveur déterminé. Et d'ailleurs c'est marrant parce que mon tout premier souvenir de sport, mais marquant, parce que voilà, je me souviens que j'avais mes parents m'avaient inscrit au club de natation, donc j'ai des vagues souvenirs que je faisais souvent plus l'étoile de mer que d'enchaîner les longueurs. Voilà, j'étais plus dans ce petit côté là j'aimais bien la douche parce qu'elle était très chaude après l'entraînement, mais le vrai souvenir pour moi, ça a été, alors c'est marrant, hein, c'est quand il y a eu les Jeux Olympiques de 92, de Barcelone en 92, je sais que voilà, la télé, quand il y avait les JO ou des événements de sport, était généralement allumée à la maison, autant le reste du temps on ne pouvait pas trop regarder la télé, mais quand il y avait sport, c'était un peu sacré. Et je me souviens, moi, de cette finale du 100 mètres nage libre, où Alexander Popov a battu Matt Biondi, qui était à l'époque la référence du sprint mondial. Et alors, au-delà du fait de gagner, ce que j'ai juste trouvé génial, c'est après. C'est-à-dire qu'il était, on voyait Alexander Popov, qui était tout jeune à l'époque, qui était sur le podium, qui était en larmes, et il y avait son hymne national. Et je me souviens avoir dit à mes parents, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Ah, ils se sont dit, je veux faire quoi? Enfin, et j'ai dit, bah, ça devait être trop génial d'être sur son podium, d'avoir l'hymne national et d'être en larmes et de tomber dans les bras de son entraîneur, de sa famille. Et waouh, c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça mon vrai premier souvenir de sport qui a finalement eu un impact énorme finalement sur le reste de ma vie.
Ah, c'est dingue. Et du coup, c'est l'émotion qui te drivait. C'était quoi le fait de le voir en larmes, de le voir célébrer, c'est ça qui t'a touché, qui t'a ému?
Je crois que ça a été le fait de, alors c'est pas seulement le fait de passer à la télé, mais de se dire déjà tout le monde ne passe pas forcément à la télé un jour. Je pense qu'il y avait voilà ce côté de se dire des milliers d'yeux sont portés sur ça. Derrière, c'est d'être capable de produire quelque chose de bah, une performance. Faisant la natation, bah, on connaît aussi la complexité de la natation et on sait très bien que c'est un sport qui nécessite beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures. Donc on se doute de l'engagement du ouais. nageur. Voilà, on n'est jamais champion olympique par hasard ou parce qu'on est fainéant. Et en fait, voilà, l'accomplissement, l'émotion. Il y avait vraiment, c'était vraiment tout ça, le fait de représenter sa nation, le fait de, voilà, c'était vraiment, c'était, je pense, tout ça qui m'a fasciné. Je me suis dit, mais comme, quand on doit le vivre de l'intérieur, mais ça doit être énorme à vivre de l'intérieur. Et je crois que c'est ça, voilà, qui m'a le plus marqué.
Ok, c'est marrant parce que bon, tu me dis moi si je me trompe, mais tu vois, en préparation mentale ou même en développement personnel, On recommande souvent, en fait, de visualiser la récompense, de visualiser le moment de la victoire, de la réussite, de l'imaginer et de toujours essayer de se raccrocher à ça dans les moments un peu durs pour créer justement de la résilience, de l'entraînement et tous les moments difficiles que ça implique. Donc toi, ça a été hyper naturel, en fait, pour toi de te fixer des objectifs et de trouver des émotions positives pour te motiver.
Ah ouais, bien sûr. Alors après, voilà, chacun a des canaux préférentiels. Il y en a qui arrivent très bien à visualiser, projeter. On y arrive tous, mais c'est plus facile ou plus intuitif chez certaines personnes. Et c'est vrai que moi, de ce jour-là, derrière, je sais pas, dans ma vie, j'ai dû gagner au moins, je sais pas, 500 médailles olympiques. Je me suis imaginé. On voit Michael Phelps qui a une dizaine de médailles olympiques. Moi, j'en ai au moins 500. Bon, elles sont toutes dans ma tête, hein. Mais voilà, non, mais en effet, c'est vrai que c'est le fait parfois de, en préparation mentale, on utilise l'outil de la visualisation. Alors, à plusieurs, voilà, ça peut être pour une correction de gestes techniques, ça peut être pour une réathlétisation, mais en effet, pour visualiser ses objectifs et essayer de ressentir l'émotionnel, ressentir au niveau corporel, et puis pouvoir, voilà, déclencher des choses, des réactions qui vont permettre derrière de mettre en mouvement et de se trouver dans un bon état, mais on le fait tous, hein, indirectement. Combien de personnes déjà ont déjà imaginé leurs vacances d'été en se disant « Ah ouais, je m'imagine sur la plage, au soleil. » On fait tous de l'imagerie et de la visualisation mentale. Ce qui compte après, bah, comme tu parlais d'objectifs en début de podcast, c'est justement peut-être de définir avec un peu plus de clarté ces objectifs et de se voir les accomplir. Voilà.
Ouais, exactement. Et tu trouves que c'est je rentre tout de suite un peu dans le vif du sujet et je me permets de digresser un peu, mais on est là pour ça. Tu trouves que c'est aussi efficace, si tu veux, la visualisation pour des objectifs qui vont être plus intellectuels? Je m'explique. Tu vois, je sais que moi, la visualisation, ça marchait super bien pour mes premiers triathlons, par exemple. Notamment quand j'ai commencé le longue distance, me permettre d'imaginer d'être dans l'eau, nager le crawl avec des milliers de personnes autour de moi, me prendre des coups, mais résister à tout ça, imaginer la pluie, m'imaginer sur mon vélo en pleine chaleur, imaginer le mal de ventre après un marathon et tenir, tu vois, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, tu vois, dans mes projets qui sont beaucoup plus des projets, on va dire, pas intellectuels, mais dans lesquels il y a beaucoup d'actions qui sont derrière un ordinateur, donc c'est beaucoup plus...
C'est moins palpable, c'est moins...
C'est beaucoup moins sensoriel, beaucoup moins physique. J'ai plus de mal à savoir qu'est-ce que je dois visualiser, comment utiliser cet outil-là. Donc effectivement, je visualise... le bout, tu vois, l'objectif final de tout ça, mais ça met moins sur le pendant, tu vois. Donc si t'as d'autres outils, je serais preneur, mais du coup je voulais savoir ton avis sur cet outil là
alors justement, c'est à dire que la visualisation, il y a plein d'outils hein, pour ça, mais on va rester sur celui de la visualisation. En fait, alors déjà, chapeau à toi de visualiser un mal de ventre. Ça doit même faire mal au ventre. Du coup, normalement, le cerveau, il envoie le message. Alors, on veut pas plus de détails sur ce qui pourrait se passer d'un mal de ventre sur un marathon. Voilà. Mais dans l'idée, en fait, il y a parfois des erreurs qui sont faites dans la visualisation. Et finalement, quand j'étais enfant et que j'ai visualisé 500 médailles olympiques, ou même dans le fait que tu visualises toi-même sur le triathlon ou quoi que ce soit, c'est bien, mais le problème, c'est qu'en fait, on visualise des choses que l'on ne maîtrise pas forcément, nous. C'est-à-dire que visualiser, par exemple, un objectif très précis, être médaillé olympique, ça dépend pas que de toi, ça dépend aussi des autres. Tu tombes sur la génération Usain Bolt, t'as pas de chance.
C'est le cas.
Tu tombes sur les JO, sur tes finalistes sur le 100 mètres à Tokyo, sur les derniers Jeux olympiques, la finale n'a jamais été aussi ouverte. On pouvait pas savoir qui allait gagner. Alors qu'avant, on se disait, y a de fortes chances quand même. Donc, déjà, c'est d'essayer de visualiser des objectifs qui sont propres à soi. D'aller dans la visualisation positive, de pas non plus rentrer dans un scénario avec un film catastrophe, en effet. Mais plutôt aujourd'hui, comme on peut l'utiliser dans le monde professionnel, dans le monde ou dans la vie de tous les jours, hein, même. Et c'est ce que aussi on le fait de plus en plus avec les athlètes, de façon à pas aller dans trop de désillusions et dans des choses que l'on maîtrise soi. C'est de visualiser des intentions, des mots clés, des mots qu'on a envie d'incarner. Admettons, voilà, ok, t'es au niveau du travail et tu dis, voilà, je crois que tu vas trouver trois mots. Tu vas dire, je crois qu'en fait, ce que j'ai besoin là comme ressource, c'est peut-être d'être je sais pas, créatif, productif et puis faire preuve de discernement. Voilà, admettons, tu choisis ces trois mots-là. Mais ça peut être plein, hein. ça peut être à l'écoute, ça peut être ambitieux, ça peut être déterminé. Tu choisis des mots, alors comme je dis toujours, je dis aux gens, vous allez tout simplement sur Google, vous tapez liste des intentions ou liste des valeurs et ça donnera des mots-clés et vous voyez ceux qui vous résonnent le plus. T'en prends que deux ou trois, pas plus, parce que le cerveau, il a pas une capacité à faire un milliard de choses en même temps. Donc, tu vas prendre ces trois mots et en fait, tu vas tout simplement te visualiser dans le Bart qui incarne ces trois mots. Ok, un Bart qui, voilà, tu choisis trois mots, tu dis, ok, ces trois mots-là, je sais pas ce que t'as trois mots qui te viennent en tête ou pas du tout?
Mais t'en as cité deux très bons. Ouais, je pense qu'il y avait la productivité, il y avait la créativité. Et le dernier, je saurais pas comment l'expliquer, mais allez, on va dire les fonceurs, tu vois, qui avancent. Ouais.
Alors pareil, on va aussi essayer de valider que le mot il fait écho à toi. Est-ce que c'est que tu veux être productif, est-ce que tu veux être concentré, tu vois. Donc on peut éventuellement essayer d'affiner un petit peu le mot pour qu'il soit le plus parlant pour toi, que ce soit vraiment ton vocabulaire. Volontairement, parce que moi, je t'ai donné ce mot-là, c'est mon vocabulaire, c'est ma définition à moi. Donc, ce qui compte, c'est un petit peu comme une carte mentale, c'est ton vocabulaire à toi. Derrière, tu vas dire, ok, c'est ces mots-là. Et l'idée, ça va être de se dire, est-ce que je vais incarner ces mots-là? Il faut que je sois ces personnes-là, je veux être ce Bart-là. Et tu vas, en fait, aller te créer le personnage. Tu vas visualiser la personne que tu as envie d'être qui incarne ces trois mots-là. Et là, à ce moment-là, ta posture, elle va forcément changer. Si tu t'imagines quelqu'un de productif ou concentré, tu vas déjà pas couler sur ta chaise et jouer avec ton smartphone en même temps que tu travailles. Si tu t'imagines déterminé, à un moment donné, quand ça va être un petit peu, tu vas fatiguer un peu, tu vas dire non, en fait, je m'arrête pas quand je suis fatigué, je m'arrêterai quand j'aurai terminé. Tu vas forcément incarner ces postures-là. La créativité, c'est quand tu vas te mettre un peu à douter, à essayer de te dire, ça va. En fait, tu vas incarner ces mots-là. C'est comme si, par exemple, t'incarnes quelqu'un d'heureux et dynamique, c'est rare de marcher la tête baissée, mollement, en faisant la gueule, si tu te visualises cette personne-là. Et en fait, c'est ça qu'on va aller chercher. Alors, pour trouver les mots, on va aller chercher le profil psychologique de la personne. On a tous un profil psycho-émotionnel, on a tous des caractéristiques mentales, émotionnelles et intuitives différentes. Et on va aller chercher un petit peu qu'est-ce qui met le mieux l'athlète ou la personne dans ce qu'on appelle son sweet spot, c'est sa meilleure façon d'agir. Et ben voilà, selon le tempérament de la personne, c'est plutôt calme, déterminé. D'autres, ça va être au contraire à bloc. D'autres, ça va être altruiste. D'autres, ça va être. On va essayer de trouver ça et on va aller créer la personne qu'on a envie d'être. Et c'est là où je trouve qu'on a un super pouvoir et on se laisse plus déstabiliser par ce qui se passe autour, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe autour. Par contre, on maîtrise juste soi-même. Et là, on peut vraiment se créer la personne qui nous inspire. Et souvent, la personne qui nous inspire, elle va vers la vie qui nous inspire.
Waouh, écoute, génial. Écoute, j'avais jamais pensé à ce que tu viens de me dire et c'est trop bien. Là, tu viens de me donner un super exercice. On se disait il y a 10 minutes que si chacun pouvait ressortir avec un outil à utiliser, ça serait brillant. C'est validé pour moi. En tout cas, trop bien. J'avais jamais pensé à ça, à visualiser ces valeurs-là.
Réussi mon pari déjà, ouais, c'est bon.
C'est bon, on raccroche.
C'est bon, il y a au moins une personne. C'est bon, ça y est.
Non, écoute, merci infiniment. C'est trop bien. Et j'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que tu vois, ça peut être troublant, tu vois, de visualiser une personne qui correspond pas à nos valeurs profondes. J'en ai déjà parlé sur ce podcast-là. J'ai beaucoup fait, tu vois, des tests de personnalité type MBTI, Ennéagramme. Ouais. L'Ennéagramme m'a beaucoup parlé, tu vois, par exemple.
Moi aussi, j'utilise beaucoup.
Je suis le profil 3 performeur, tu vois. Donc, j'ai toujours besoin de performance, je suis facile à motiver. Dès que tu me lances un challenge, je réponds. Mais moi, j'ai mes travers aussi, hein, bien sûr. Mais tu vois, il y a des trucs qui me correspondent pas du tout. Et est-ce que ça peut... Est-ce que, tu vois, avec ta méthodologie, est-ce que ça peut être dangereux ou au contraire, est-ce que c'est recommandé d'aller visualiser des choses qui correspondent pas forcément à ton toi intérieur? Moi, c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. C'est est-ce que je dois aller contre le Bart naturel, tu vois, et assumer ses défauts et amplifier ses qualités au maximum, ou essayer d'aller chercher le Bart que j'aimerais être, mais qui correspond pas vraiment à celui que je suis vraiment. Tu vois, c'est.
Alors justement, toi, tu mets le doigt sur plein de choses très intéressantes. La première, en effet, il faut pas confondre l'utilisation des outils psycho-émotionnels et catégoriser les gens. Ça reviendrait parfois à dire, oh, bah, lui, c'est bon, il est poisson, ascendant bélier, oh, bah, c'est normal, il est comme ça, comme ça. Tu vois, on se dirait tous, mais c'est bête, en fait. Donc, du coup, c'est exactement pareil dans les profils. OK, tu me dis que t'es profil 3, mais tu dis, ah, je me reconnais pas, tout ça. Par exemple, moi, je vais me dire, OK, t'as utilisé, par exemple, le mot créatif, il y a de fortes chances que t'aies une aile en 4. C'est-à-dire que tu peux être 3 avec une aile, tu connais un petit peu l'outil, une aile en 2, une aile en 3. Ensuite, il y a le sous-type. Ensuite, tu te rappelles, il y a des petites flèches au milieu, donc il y a intégration, désintégration, stade de maturité, non-maturité et profil profil entier. Donc finalement, tu regardes sur un profil, sur les outils de profil psycho-émotionnel, il y a plus de 500 combinaisons de profils. Ouais, donc c'est pour ça que des fois, on s'identifie pas forcément, ou des fois, on se dit, bah ouais, mais je suis comme ça dans telle situation, ouais, mais je suis celle-ci dans telle situation. Ça, c'est quand on intègre ou on désintègre. Ensuite, c'est en fonction des personnes avec qui on est, les valeurs qui nous font écho ou nous font écho positivement ou qui nous rejettent. Et ensuite, il y a toujours cette partie de se dire, OK, attention à ce que je suis et ce que j'aimerais être. Parce que c'est des fois deux choses différentes. Parce que des fois, c'est pas qu'on n'aime pas la personne qu'on est, pas du tout, mais des fois on se dit, ah, j'aime bien les caractéristiques mentales de telle et telle personne. Alors oui, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu à piocher là-dedans, mais c'est pas pour ça qu'il faut être quelqu'un d'autre. Et on le voit beaucoup, beaucoup, je le vois avec beaucoup d'athlètes, je le vois même avec beaucoup de dirigeants, ouais, de cadres, de managers, parce que c'est essentiellement le public que j'accompagne, des gens qui sont vraiment dans une recherche quand même de performance, ou de, voilà, oui, de performance. Alors plutôt épanouie et constante, hein, on n'est pas de la performance, ouais, ouais, pour de la performance. Et très souvent, on se rend compte que certains athlètes ont été ce qu'on leur a demandé d'être pendant des années. Ils ont, ouais, répondu à ce qu'on leur demandait d'être. Certaines personnes ont répondu aussi à ce que la société demandait d'eux. Un enfant, parfois, a répondu pendant des années à des études que ses parents ont voulu qu'il fasse parce que ça peut être assuré, c'était peut-être les peurs des parents, c'était peut-être... On se rend compte beaucoup, beaucoup de ça. Et parfois, à l'adulte, on se dit, ouais, mais finalement, c'est pas vraiment moi, ou il est temps que je redesigne un peu mon moi. Donc, c'est pour ça que quand on va travailler ces exercices de visualisation, quand on va travailler le profil psycho-émotionnel, c'est pas aussi, oh, bah, tiens, t'es ça, t'as qu'à visualiser ça, hop, tout ira bien. C'est pour ça que justement, les petits outils que je donne comme ça, ils peuvent donner des petits, voilà, ça peut donner des petits conseils, des petites choses à mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, dès lors que t'es avec un spécialiste, un coach, un préparateur mental, voilà, là, à ce moment-là, on va vraiment individualiser et on va faire vraiment du sur-mesure. Et parfois, tiens, j'ai un exemple qui date, quoi, c'était hier en préparation mentale. Un athlète, qui fait justement de la descente enfin, en VTT de descente, et il me disait, OK, bah, en fait, je me dis ça avant la course, il fait toute une liste de mots. Sauf qu'il dit, bah, ouais, malgré tout, ça passe pas. En fait, les mots qu'il se dit, ils sont pas mauvais. Ils sont juste pas adaptés à lui.
Ouais.
Il dit les mots que son entraîneur lui dit. Ouais, mais tu vois, au contraire, fais-toi plaisir, dépasse-toi. Sauf qu'en fait, c'est quelqu'un qui, se faire plaisir, pour lui, ça passe pas sur cette même chose-là, ça passe pas par cette forme de dépassement. Et en fait, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'être dans un champ de compétences. Donc du coup, enfin, en fait, il faut juste plutôt qu'il se dise, OK, fais juste ce que tu sais faire.
Ouais,
à l'inverse, un autre pilote, si on lui dit, bah, fais juste ce que tu sais faire, bah, il s'ennuie, parce que lui, c'est plutôt un intuitif, un créatif, un petit magicien, en fait. Donc, lui, il faut qu'il se dise complètement autre chose. Donc, finalement, ça veut dire que il faut vraiment adapter le discours, vraiment parler le bon langage. Alors, le langage externe, c'est sûr, mais au moins se parler avec le bon langage, les bons mots, pour être sûr qu'il n'y ait pas une dissociation entre le cerveau et ton corps. Il dit, mais non, mais en fait, ce que tu me racontes, j'arrive pas à le mettre en place parce que ça me parle pas, en fait. Je comprends pas. Ouais. Je te comprends pas. C'est bien ce que tu me dis, c'est beau, mais je te comprends pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter. C'est marrant parce qu'après, on peut l'appliquer dans plein de domaines de vie. Moi, je l'applique forcément avec les clients que je peux avoir. Je l'applique aussi avec mes propres enfants. J'ai deux enfants, elles ont strictement rien à voir. La consigne est toujours différente. Toujours différente parce que si je parle à l'une, je vais terreau, l'autre, elle va être inhibée, elle va pas comprendre, ou ça va, voilà. Et inversement, si je parle d'une manière à l'autre, ben, l'autre, elle va, ça va pas être assez vibrant pour elle. Donc c'est d'adapter finalement le discours bien à chaque fois. Et c'est très complexe. C'est pas juste mettre des gens dans des cases et leur parler parce que dans cette case-là, on dit comme ça.
Ouais. Ben écoute, tout ce que tu dis là, ça me parle beaucoup parce que je suis en plein dans cette réflexion là, tu vois, justement de trouver le bon discours interne, de trouver les bons mots, de trouver les bons drivers aussi justement, oui. Et pas se laisser avoir par des tests de personnalité et de les lire sans lire entre les lignes et puis surtout de les mettre enfin de les regarder avec honnêteté avec soi-même, tu vois. Donc ça me parle beaucoup. Merci pour ces clarifications et c'est un très très beau travail, je trouve, tu vois, de prendre ce temps-là et de se poser les bonnes questions. Mais c'est pas facile à faire seul, hein. Moi je réfléchis de plus en plus à tu vois, je me suis fait beaucoup accompagner mais sur quelque chose de très entrepreneurial avant. Et là de me faire accompagner plus sur cette partie-là justement parce que c'est un travail qui est vraiment pas facile à faire seul, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, est-ce que toi tu te fais
Moi je pense que c'est très important. Déjà, je pense qu'un bon coach est lui-même accompagné. Ouais. Se faire accompagner, on est loin des clichés de j'ai un problème ou je vais mal ou je sais pas faire. Mais plus d'avoir un œil extérieur, qui va pouvoir aider à l'analyse, qui va pouvoir tout simplement faire gagner du temps. Donc c'est aujourd'hui, voilà, on est, quand je donne l'accompagnement, c'est d'ailleurs peut-être plus souvent des coachs, des préparateurs mentaux que des psychologues, parce que c'est un autre type de travail, hein, le psychologue. Mais du coup, là, moi c'est vrai que je suis accompagné, parce que ça m'aide à clarifier, ça me fait gagner du temps, c'est un confort aussi, et ça m'aide finalement à optimiser les choses. Donc moi pareil, je suis accompagnée d'un point de vue préparation mentale tout simplement, et puis ça me permet aussi d'avoir de pas toujours réfléchir pour moi. Déjà, moi je réfléchis toute la journée pour les autres, alors des fois que quelqu'un réfléchisse pour moi, ça fait du bien aussi. Et ensuite pareil, en tout ce qui est business coach aussi, dans tout ce qui va pour le coup notre partie, quelqu'un qui m'accompagne aussi pour tout ce qui est développement stratégie, entrepreneurial, stratégie business, parce que c'est deux métiers différents et finalement c'est marrant de faire des ponts dans l'un dans l'autre.
Ouais, bah c'est clair. Bah écoute, on va en parler juste après. Je voulais te poser cette question là parce que je voulais délivrer un petit outil sympa et je sais que t'en as plein pour les auditeurs. J'ai beaucoup de, tu vois, d'auditeurs qui font des sports d'endurance, qui font du tu vois, du trail ou du triathlon, et souvent sur des longues distances. Ça leur laisse du temps pour nous écouter, donc c'est plutôt bien. Disons que quelqu'un, tu vois, et je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui disent, j'ai envie de m'y intéresser mais j'ai que 5 à 10 minutes par jour, qu'est-ce que je fais? Et j'ai pas spécialement le temps de lire. Bon, je sais ce que tu penses sur la lecture de 5 minutes par jour, et j'avais vu un intéressant post sur Instagram et je suis très d'accord avec ça. Si 5 minutes à lire à la fin de l'année, ça fait beaucoup beaucoup beaucoup. Mais si tu avais un petit exercice, tu vois, pour utiliser ces 5 à 10 minutes en rapport avec une pratique sportive par exemple, qu'est-ce que tu pourrais avoir tendance à recommander à nos auditeurs ou à quelqu'un qui pratique justement un sport d'endurance?
Alors, moi j'ai beaucoup de mal avec le j'ai pas le temps. En fait, c'est pas des questions de temps, et si on est honnête, c'est des questions de priorité. Ouais. Et si quelqu'un ne voit pas la priorité, c'est que en fait, il a pas vu le gain qu'il pouvait y avoir. Admettons, si je te dis, tu consacres 10 minutes à ça, et t'es assuré d'avoir une vie épanouie, professionnelle, personnelle, d'atteindre tous tes objectifs.
Ouais.
Est-ce que t'oserais dire, j'ai pas le temps? Beaucoup moins. Donc déjà, la première chose, c'est se dire, ok, c'est parce que j'ai pas vu l'intérêt que ça pouvait faire. Par exemple, la lecture, si je m'écoute, j'ai pas le temps. Mais je me dis, si 5 minutes par jour, ça me fait lire 20 livres par an, a priori, à la fin de l'année, je serais un petit peu moins stupide que ce que j'étais l'année d'avant. Donc c'est juste question, et dans un domaine qui intéresse. Alors, c'est pour ça, c'est juste de se dire, ok, 5-10 minutes, si je réfléchis, je les ai forcément. Après, il faut trouver stratégiquement. Il y a des gens parfois qui disent, ok, je vais prendre 5 minutes le matin. Peut-être que ce qui est adapté pour eux, c'est peut-être 5 minutes le midi, c'est peut-être 5 minutes en fin de journée, c'est peut-être, tu vois, des fois, quand on n'arrive pas à tenir une habitude, c'est qu'on n'en voit pas le gain réel, on voit pas à quoi ça pourrait vraiment servir, et où c'est pas adapté. C'est pas adapté, c'est pas au bon endroit de la journée. Pendant des années, moi, j'essayais de lire le soir. Je sais pas lire le soir. J'arrive pas. Je crois que les lettres se mélangent. J'y arrive pas. Mais ben, c'est pas grave. Je lis le matin. Je lis 5 minutes le matin et 5 minutes à midi avec le café. Donc, ça, et en fait, c'est pas grave. Ça fait 10 minutes à la fin de la journée. Et qui a dit qu'il fallait lire le soir? C'est personne. Donc, 5 à 10 minutes, c'est de dire, OK, je vais le trouver stratégiquement et je vais tester. OK, si je me remarque que le matin, bah ouais, finalement, j'y arrive très bien. Et ben, je le ferai le matin. Donc après, c'est déjà, je trouve, sur le moment l'adapter. Ensuite, j'essaie d'en voir le gain. Voir le gain, aujourd'hui, mentalement, il n'y a pas de hasard. Alors, quand je dis dans la performance, c'est dans l'accomplissement. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que on ne réussit jamais par hasard, genre parce qu'on a eu la mienne. Ça marche une ou deux fois par coup de bol. Et encore, je pense que plus on va vers des choses exigeantes, moins ça fonctionne. Donc déjà, la première chose de se dire, c'est que je ne réussis pas par hasard. Donc, ça veut dire que comment font ensuite les meilleurs qui réussissent? Et moi, c'est un petit peu ça, c'est comment font les plus grands champions, comment font les plus grands chefs d'entreprise, comment font les plus grands personnalités de ce monde, présent ou passé, pour réussir? Et c'est vrai qu'il y a plein de biographies et on voit des composantes qui reviennent. Tout le monde passe par des phases, alors, ce qu'on appelle ce fameux miracle morning, alors on n'est pas obligé de le faire le morning, hein, ça peut être à d'autres moments, mais c'est de passer par une phase un petit peu de, on appelle savers, c'est le S de silence, alors une phase de méditation. Tout le monde n'aime pas la méditation, moi je suis plus adepte de la cohérence cardiaque, je m'aperçois que ça passe mieux pour les athlètes aussi de haut niveau, ils aiment bien la cohérence cardiaque, c'est un principe d'exo de respiration. Simplement, personne ne peut pas dire, j'ai pas le temps de prendre le temps de me focaliser sur 5 respirations le matin. J'essaie d'écouter, de comprendre comment je respire 5 fois. Respirer, on le fait dans la journée, mais on prend jamais le temps de réfléchir sur ça. Le A, c'est le A de affirmation. C'est-à-dire qu'il faut avoir des formes de mantras. Alors, c'est là où c'est exactement ça. Il faut vraiment donner des mantras qui soient adaptés à ses objectifs de vie, ses objectifs personnels. Ça peut être des affirmations à moyen, à court, à long terme. Peu importe, il faut trouver sur ça. Ensuite, c'est de visualiser, de se visualiser dans la posture dans laquelle on peut faire. Après, quand on parle de E, c'est d'exercice, donc c'est d'arriver tout simplement à faire voilà 2-3 assouplissements, essayer au moins de sentir son corps. On sent de moins en moins son corps, on intellectualise tout et on passe plus rien par le corps. Ouais. Ensuite, c'est tout simplement lire. Mais lire, ça peut être un paragraphe, ça peut être... Moi, j'ai souvent lu les livres de Paolo Coelho, où c'est juste parfois 10 petites lignes, voilà, d'une petite morale, d'un petit conte de la mythologie ou des choses comme ça. Ça prend ouais, 1 ou 2 minutes. Et ensuite, c'est parfois simplement d'écrire un petit peu 2-3 ressentis. On n'est pas obligé de faire tout le matin, mais peut-être tout simplement piocher 2-3 là-dedans et s'amuser. Je pense qu'il faut aussi voir ça comme un jeu, pas comme une contrainte, pas le « il faut, je dois », mais voir plutôt, OK, si je fais ça, eh ben, il est quand même prouvé qu'il y aura des résultats. Et ça marchera pas que sur les autres, ça marchera aussi sur moi. Je mets juste un petit bémol aussi, on en a parlé avant sur les profils psychologiques ou certains livres de développement personnel. Là où faut faire attention, c'est que des fois, on lit des méthodes qui marchent sur certaines personnes et on se dit, mais pourquoi ça marche pas sur moi? Pourquoi moi? C'est que moi, ça y est, j'ai un problème. Moi, je suis mauvais. Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que, comme je dis toujours, le livre de développement personnel a été écrit par une personne pour qui ça marche pour lui. Ça marche pour des personnes, mais ça marche peut-être, il y a peut-être pour 20% pour qui ça marche pas. Et il faut juste réadapter la méthode. Donc, c'est, première étape, c'est, j'essaie de comprendre le gain que je peux avoir à le faire. Si j'ai conscience du gain que ça peut faire, à ce moment-là, j'essaie de placer ces 5 à 10 minutes à un moment qui est le plus stratégique dans la journée. Je pense que ceux qui réussissent sont pas les plus intelligents, simplement c'est les plus stratégiques, les plus malins. C'est se dire, OK, à ce moment-là de la journée, ça passe bien. Voilà un petit peu le conseil que je pourrais donner et voilà pourquoi les gens, des fois, ont du mal à avoir de la constance dans leurs bonnes habitudes.
Eh ben écoute top. Non mais t'as tout à fait raison. Déjà de remettre en exergue l'excuse du j'ai pas de temps. Donc si vous nous écoutez là maintenant, demandez-vous là, est-ce que vous avez du temps et surtout est-ce que quand on veut se mettre effectivement à la préparation mentale ou à des petits exercices de développement personnel, il faut déjà effectivement savoir qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans et quel est l'objectif final et est-ce que on voit chez d'autres des bienfaits et comment est-ce qu'on peut les adapter à soi. Mais en tout cas c'est hyper intéressant. Et toi, c'est quoi qu'est-ce qui t'a fait un peu tomber dans cette voie du développement personnel et qu'est-ce qui a fait que tu t'y es intéressé tout particulièrement à la fois à la psychologie, à la préparation mentale? Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans et comment est-ce que t'as commencé Toi, concrètement, est-ce que tu as commencé dans ta carrière d'athlète ou c'était plutôt après?
Alors, est-ce que tu veux la version officielle ou la version officieuse? Allez, on va donner les deux, soyons transparents. Et d'ailleurs, les deux sont réels, hein, pour le coup. Ouais. Déjà, je crois que moi, j'étais toujours été fascinée par le potentiel humain. Ce que le haut niveau, moi, m'a apporté à titre personnel, c'est au-delà, bah voilà, d'avoir vécu une carrière qui était quand même chouette, de vivre de sa passion, de même si après c'était un métier, mais voilà, j'ai toujours gardé cette passion malgré tout. Il y a toujours eu ce fait d'être intrigué par comment fait un athlète pour être meilleur, comment il passe de bon athlète à champion et comment il reste champion plusieurs années de suite. Qu'est-ce qu'il fait, comment il pense, comment ça se passe dans sa tête, parce qu'on se rend compte qu'à haut niveau, tout le monde est doué, tout le monde est travailleur. Tout le monde a plus ou moins les mêmes données physiologiques, le même matériel, les mêmes connaissances d'un point de vue technique, tactique. Donc, ça veut dire qu'il y a une différence énorme qui se fait au niveau mental. Donc, ça a été déjà de décortiquer ça. Après, les autres versions, la deuxième version, et qui est réelle également, c'est qu'à la base, moi, je suis quelqu'un qui était dyslexique quand j'étais enfant, j'avais peur, en fait, des humains. Les gens me faisaient peur. J'étais impressionnée et je me suis dit, mais si t'étudies les gens, bah peut-être que t'auras moins peur des gens. Donc je me suis dit, eh ben étudie les gens, comme ça tu les comprendras et ça te paraîtra moins bizarre le monde dans lequel tu vis. Le monde, tu vois, tu parlais d'énagramme, je suis profil 4 avec une aile en 3, donc tu vois, je m'étais dit, ouais, quand même, les gens, donc il y a eu ça. Et enfin, quelque part, là, la troisième version et celle qui m'anime aujourd'hui, chaque jour, c'est de me dire que je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel énorme. Et si moi, à mon échelle, je peux contribuer à l'épanouissement et l'accomplissement de certaines personnes, je crois que c'est ma mission de vie et c'est ce qui me porte vraiment, vraiment chaque jour. Donc voilà tout simplement les trois raisons pour lesquelles je me suis intéressée à la psychologie, aux sciences humaines et puis à la préparation mentale ensuite.
Ok, génial. Écoute, super intéressant. En plus, ça rebondit un petit peu en moi, tu vois. Tu m'inspires beaucoup, Marion. Je dois te le dire, hein, depuis le début, mais je bois tes paroles. Et peut-être quel est le. Je vois bien effectivement comment tu tombes dans cet univers. Il y a une certaine fascination. Moi aussi, tu vois, je suis fasciné de comprendre pourquoi certains êtres humains y arrivent beaucoup mieux que d'autres. Je comprends et je partage cette passion pour le cerveau humain et le potentiel humain. Et toi, je me pose la question pour toi. Quels ont été un petit peu les moments waouh de cette découverte? Est-ce que, je sais pas, il y a eu des exercices particuliers qui marchent très bien avec toi et où tu t'es rendu compte que, ah bah ouais, en fait ça marche vraiment ce qu'on dit. La question d'après, ça sera, oui, quelles sont tes routines toi aujourd'hui, tu vois, comment pour autour de la préparation mentale, mais ouais, quels ont été les moments waouh de cette découverte?
Alors quelque part, il y en a plein et c'est dur de donner un jour il y a eu un déclic et ce serait oublier le reste, ce serait valoriser un instant alors que finalement cet instant il est arrivé parce que en amont il y a eu plein de petits instants qui ont créé cet instant-là. Je sais pas si c'est assez clair, mais je pense que c'est tout un cheminement. C'est comme quand des fois on dit waouh, cette personne a changé ma vie. Non, c'est parce que t'as rencontré plein d'autres personnes avant qui t'ont fait voir les choses et un jour cette personne, ce discours-là, t'étais prêt à l'entendre. Donc il y a pas forcément ça. Après il y a eu des moments assez particuliers dans ma carrière. On en parlera aussi. Je crois que tu voulais qu'on ait un échange après sur ça. Mais il y a des moments de toute façon où j'ai pas eu le choix de faire ce travail mental parce que sinon ça aurait été dramatique pour la suite de ma vie même tout court. Et je crois que c'est plutôt le moment où tu finis un jour par avoir des larmes de gratitude. Parce que t'as juste compris qui t'étais et t'aimes bien qui t'es. Et ça, ouais. Ça a été, tu vois, j'en parle presque les larmes aux yeux parce que ça a pas toujours été le cas, notamment quand y compris quand j'étais athlète de haut niveau. Et je crois que le déclic, il a été là et c'est plus ce moment-là, ce moment où pareil, j'ai compris que tu pouvais avoir de la gratitude pour qui t'étais, que pour ce que t'avais. Le jour aussi où j'ai compris que même si que les autres avaient des tas de choses que j'avais pas moi, mais que j'ai aussi compris que moi j'avais des choses que personne n'avait. Et ce qui crée un peu cette unicité de chacun. Et quand j'ai eu conscience de ça, il y a beaucoup de complexes qui se sont levés, il y a eu beaucoup de barrières qui se sont levées, beaucoup de déclics qui ont été faits à titre sportif, puis ensuite à titre professionnel. Et ensuite, le moment où tu as cet exercice aussi où tu relis un petit peu tout ce que tu as fait dans ta vie, tu fais un petit peu une frise de vie et tu comprends un peu et tu relis tous les points. Et tu te dis, mais en fait, c'est évident que ma mission de vie, c'est celle-ci. C'est évident que ces choix, je les ai faits. C'était évident, en fait. Même si au départ, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait certains choix, pourquoi. En fait, tout ça, c'est juste normal. Tout est normal. Et de se dire que j'ai juste à être pour avoir. Et pas avoir pour être. Quand on est athlète, des fois, on court après des résultats, on court après des titres, on court avoir pour espérer être plus confiant, être reconnu, être... Ok, et en fait, le jour où j'ai inversé ce verbe être et avoir, en me disant, mais sois-toi, sois dans cette posture, sois dans ces intentions. Et en fait, tu t'aperçois qu'après, les choses, tu les as naturellement et que les choses viennent à toi et que la vie, elle est juste généreuse. Et par rapport à certains événements de vie que j'ai pu vivre... Ou parfois c'est des injustices sur lesquelles tu peux rien, c'est comme ça, c'est la vie qui a décidé de te frapper de cette manière-là. Et ben t'as d'autant plus intérêt à avoir fait ce travail déjà un peu en amont et de continuer ce travail sur soi et de se dire que bah heureusement parce que bah ça permet aussi aujourd'hui de comprendre que ce qui t'est arrivé c'est peut-être la plus belle chose qui te soit arrivée. Et on n'est jamais responsable, on n'est pas toujours responsable d'ailleurs de ce qui nous arrive, mais on est juste responsable de l'attitude qu'on a à avoir face à ce qui nous arrive. Donc voilà, ça a été vraiment plutôt cet ensemble de déclics. J'arrive pas à sortir ça a été ce jour-là. C'est plus un ensemble de ça et ça a été et ensuite de se dire que finalement c'est du travail sans fin et c'est ça qui est chouette parce que bah voilà on le fait de se dire que la vie elle est c'est un super jeu tous les jours. On a le droit de jouer tous les jours. On ne sait pas pour combien de temps on peut jouer. Hein, ça c'est des fois la nature qui va décider. C'est aussi nos comportements. Hein, voilà, ensuite si on a des conduites à risque, la vie va peut-être pas nous épargner, mais c'est de se dire que chaque jour, en fait, on peut essayer d'être une meilleure version de soi, mais sans se mettre la pression, sans stress, juste en jouant, juste le jeu. Comme je dis parfois, le jeu J-E et le jeu J-E-U, quoi. C'est le jeu, quoi.
Ok. Et j'ai envie de te poser une question parce que tu vois, je te vois pleine d'énergie, hyper confiante, hyper souriante. Tu dégages vraiment quelque chose de très fort, tu vois. Quand on te parle, quand on t'écoute, et je me demandais si t'as toujours eu cette énergie-là, cette envie de transmettre, cette envie de ou un peu cette énergie solaire que t'as en toi, ou si au contraire justement comme tu dis, tu l'as un peu créé et t'as inversé le être et le avoir. Je suis curieux de savoir qui tu étais plus quand tu étais athlète, parce que j'ai écouté plusieurs de tes interviews et c'est vrai que il y a souvent un champ lexical parfois peut-être de la souffrance ou de la douleur. Auquel tu es associé et plutôt un vocabulaire de la renaissance dans ta deuxième carrière, tu vois.
Ouais, bien sûr. Alors déjà, oui, je suis vraiment de nature optimiste, dynamique, et j'ai de quoi l'être, mais j'ai aussi, comme tout le monde, des bad trips de temps en temps, des moments où ça va pas, où tout passe pas très bien. Juste bien une petite anecdote, je rigolais avec mon meilleur ami hier, je l'ai au téléphone et il y a deux jours j'ai bossé justement sur la stratégie de boîte avec de nouveaux projets à mettre. J'étais là à fond, j'ai passé l'après-midi à bosser dessus, j'ai fait une carte mentale, j'ai tout planifié, un truc hyper cohérent en plus, hein, pas les yeux plus gros que le ventre, un truc très stratégiquement bien posé et tout. Et des fois on dit ah, la nuit porte conseil, ok. Et je me suis couché, tout ça, tout allait bien. Et le matin, je me lève en me disant, mais en fait, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui que d'oser lancer ça? Tu te prends pour qui que d'oser aller démarcher tel type d'entreprise? Tu te prends pour qui d'oser développer ce projet digital? Tu te prends pour qui de te mettre en photo sur Instagram? Enfin, je suis partie dans une loose en me disant, mais... Un doute. Alors quand on dit des fois les gens la nuit porte conseil, mon mal m'a porté la loose quoi cette nuit-là tout du moins. Et c'est juste normal. C'est juste que des fois bah ok comme tout le monde j'ai peur, comme tout le monde je doute. Mais c'est juste que je laisse pas ce doute s'installer. Et il est juste normal. Dès qu'il y a du doute ou qu'il y a de la peur, c'est qu'il y a un centre d'intérêt énorme. Souvent je prends cet exemple de se dire si par exemple t'as un projet qui est intéressant pour toi, tu dois avoir un minimum peur. C'est parce que tu sais que t'as des choses à y gagner. Si ce projet n'est pas important pour toi, tu t'aperçois que tu n'as jamais peur. Si tu as un rendez-vous qui est important pour toi, professionnel, personnel, peu importe, tu dois avoir cette petite boule au ventre parce que c'est que la personne elle est importante pour toi ou ce rendez-vous il est important. Je l'ai tiré d'une phrase de mon entraîneur où je disais, tu vois, moi, je pense que l'accomplissement quand je serai athlète, c'est d'être au départ d'une course et de plus avoir peur. Et il me dit, ok, le jour où ça t'arrive, tu me le dis, t'arrêtes ta carrière. Je fais, pourquoi, attends, ce sera génial. Il me dit, non, ça voudra dire que t'as plus envie de gagner, tu vibres pas pour le truc. Et peur ou stress, c'est pas forcément négatif, c'est juste un doute. Et au moment où je me suis levée ce matin-là, où j'ai mis mes crocs et je suis allée prendre mon petit-déj, je me suis dit, c'est là, tout le monde sait que j'ai des crocs maintenant. J'aurais peut-être pas dû le dire. Mais on est bien dedans. Et donc, du coup, ça a été de me dire, mais non, en fait, l'espace doute s'installait. C'est juste qu'en fait, ce que ce projet, c'est que tu rêves de le faire. C'est juste que t'as un peu peur, mais c'est juste normal. C'est juste normal. Et c'est pour ça que voilà, ça faut pas du tout stresser par rapport à ça. Les up et down, c'est normal en cardiologie. Quand le cœur il fait plus haut et bas, le patient il est décédé. Donc il faut pas avoir peur de ça. Ça veut dire qu'il y a du gain et ça doit créer de l'excitation. Et voilà, et ça m'a pris 5-10 minutes. Je me suis dit puis après je me suis ressaisie et je me dis mais c'est génial, c'est que t'es exactement au bon endroit. Et ensuite par rapport à ma carrière, si on revient sur le début de ta question. Oui, il y a eu, je crois, une première partie de ma carrière où j'étais très performante. J'étais très précoce, du coup. J'avais tout juste 19 ans, j'ai intégré les équipes olympiques, ce qui est très précoce. Je tournais déjà sur les équipes de France, sur les Coupes du Monde. Je gérais la partie junior, j'étais sur le championnat du monde junior, championnat d'Europe junior, mais je courais également chez les seniors en même temps. Au JO de 2004, j'avais tout juste 21 ans. J'étais très très jeune et c'était sous forme de souffrance parce que il fallait être performant, j'étais dans l'exigence, j'avais confondu exigence, excellence et la gratitude et le jeu. C'est toute cette période aussi où faut pas s'en cacher, c'est très connu dans le monde du sport de haut niveau, les troubles du comportement alimentaire, toutes ces choses-là en fait qui sont venues entacher et j'étais très introvertie et j'arrivais pas à me sentir finalement si bien que ça et bon de toute façon après la vie vous rattrape et le corps a lâché totalement avec une saison totalement blanche en 2005. Après je me suis reconstruite différemment. Et je me suis reconstruit avec quelque chose qui pouvait m'épanouir. Donc j'ai poursuivi l'aventure jusqu'au jeu de Pékin en 2008. Et puis après j'ai plus voulu être dans ce système fédéral, ce système où j'avais l'impression, c'était mon impression à moi, mais que on décide pas vraiment de ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup trop de jeux politiques, d'intérêts et d'injustice aussi, très sincèrement. Et à ce moment-là, j'ai préféré me dire, ok, moi j'ai cette possibilité dans le triathlon de me réorienter dans le Xterra, dans l'Alpha Ironman. Et là, voilà, je suis reparti sur cette partie-là. Mais c'est vrai que, au départ, je pouvais pas dire j'étais une athlète heureuse. Je souriais parce qu'on t'apprend à sourire. Les cours de media training servent à ça. On t'apprend à sourire, on t'apprend à répondre aux questions d'une manière très propre, dans plusieurs langues, de façon à pouvoir t'adapter aux interviews, si c'est en italien, en allemand ou en anglais. Mais j'étais un robot, ni plus ni moins. Et il y avait pas de voilà, il y avait j'allais dans l'autodestruction parce que je voulais pas trop découvrir peut-être qui j'étais. Il y avait peut-être pas cette maturité ou tout a peut-être été très vite aussi, très vite pour moi. Peut-être aussi j'étais élevée, et tant mieux, dans un univers de bisounours où tout allait bien. Il y avait de l'amour autour de moi, donc tout allait bien. Et quand je suis arrivée peut-être dans ce milieu-là, c'était peut-être un peu trop un peu trop hâte pour moi. Mais peut-être il fallait aussi tout simplement passer par là. Donc moi, je regrette en rien. Mais ça a été des années, en toute honnêteté, de mes 16 à 22, 23 ans, ça a été, j'étais pas heureuse, sincèrement. J'ai vécu des belles choses. Tout n'était pas malheureux, mais, c'était plus souffrance.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Que plaisir.
Ouais. Est-ce que tu penses que c'est... Enfin, que tu vois, le sport de haut niveau aujourd'hui, avec ton œil et ton recul, bon, après, on est tous différents, mais est-ce que tu penses pas que le sport de haut niveau est inhérent quand même à une certaine part de souffrance et de douleur, tu vois? Soit par le système de sélection qui fait qu'on demande beaucoup à des jeunes qui sont trop jeunes ou précoces pour justement en fait que les plus faibles entre guillemets abandonnent, tu vois. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut être un athlète de haut niveau sans qu'il y ait, en étant tout aussi heureux que toi tu puisses l'être maintenant, si tu veux. Alors je sais pas si ma question est très bien
De ce que je comprends, c'est ce qu'à un moment donné être athlète de haut niveau nécessite forcément de passer par de la souffrance, qu'elle soit mentale, qu'elle soit ça, c'est un petit peu ça quelque part.
Ouais, exactement, ouais. Et je me pose beaucoup cette question là, tu vois, de savoir est-ce que le système russe et américain de je fais des athlètes des robots qui n'écoutent pas leurs émotions, est-ce que c'est quelque chose qui est viable dans le temps, tu vois, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser autour de ça et j'entends beaucoup de parler de burn-out avec des athlètes de haut niveau, tu vois. Donc
bien sûr, alors après oui, moi je pense, et c'est ce à quoi j'œuvre moi en tant que préparateur mental, c'est avant de faire des athlètes, c'est de faire des hommes et des femmes déjà premièrement, et ensuite oui, dès qu'on parle de sport de haut niveau, on parle d'élitisme. Quand on parle d'élitisme, on peut pas faire de la calinothérapie non plus. Faut pas se mentir. Il y en aura qui passeront, il y en aura qui seront éliminés, certains seront sélectionnés, d'autres pas sélectionnés, il y en a qui gagneront, il y en a qui gagneront pas. Ça, c'est la réalité du sport de haut niveau, on peut pas aller contre, et c'est pas grave. Par contre, c'est juste de se dire, ok, moi, comment je me positionne dans ce système-là? À quel moment ce système-là me nourrit? À quel moment il m'agresse? Et à ce moment-là, c'est de pas forcément se retirer du jeu, mais de connaître un petit peu ses leviers, connaître un petit peu ses drivers, connaître un petit peu comment je joue avec ce système en quelque sorte. Parce qu'il n'est pas que mauvais. Un athlète de haut niveau, il est obligé d'aller dans ses retranchements. Il est obligé de se remettre en question. Et dès le plus jeune âge, il est obligé de se dépasser chaque jour. Il est obligé d'aller chercher ça. Sinon, il peut pas être athlète de haut niveau. C'est pas possible. Le 80%, ça existe pas. C'est 100, voire 110%. Régulièrement. Pas forcément d'être tout le temps à fond, mais dans ce fait de réfléchir, d'être dedans. Donc ça veut dire que oui, ça va passer par des phases difficiles, parfois des phases de souffrance, mais l'idée, c'est de enlever échec, réussite, souffrance. C'est juste des états sur lesquels il faut se dire, ok, qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'analyse? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Quel a été le mécanisme qui m'a conduit à finalement pas savourer ou à souffrir? Quel est le mécanisme qui, au contraire, me pousse à me sentir pleinement épanoui, à sentir que j'ai des ailes et que j'ai le vent dans le dos et boum, ça va tout seul? Donc l'idée, c'est plus vraiment ça. C'est de dire comment moi je me situe par rapport à ça. Et oui, ça passera par ces up and down, mais à côté de ça, il y a tellement des belles choses. On voit que c'est des individus très souvent qui sont doués, qui ont un truc hors norme. Et derrière, en fait, quand ils arrivent à bien combiner la chose, c'est pour ça que je pense que le travail avec un préparateur mental en France, il est trop fait sur le fait de on va appeler le préparateur mental quand ça va plus. Quand l'athlète, il est plus performant, il faut que le préparateur mental, il aide l'athlète à être performant. C'est pas forcément le bon plan. Moi, je pense que ça se travaille depuis le plus jeune âge. On a des Tony Stanguet, des Teddy Riner qui disent qu'ils travaillent des préparateurs mentaux depuis qu'ils ont l'âge de 12, 13, 14 ans. Parce que ça fait partie de la composante de la performance et on sait que l'épanouissement de l'athlète est performant. Parce que quand je te disais, j'étais pas très heureuse, ma carrière aurait pu s'arrêter, hein. D'ailleurs, j'ai eu 14 ans de carrière internationale. Avant, évidemment, t'étais un peu dans l'antichambre des pros, donc t'es déjà un peu dedans, t'es déjà bien dedans, par des cursus de sport-études, mais, si j'étais restée comme ça, ma carrière, elle se serait arrêtée en 2005. Elle aurait été terminée en 2005, et finalement, j'ai arrêté en 2013. Donc, il y a une nécessité, et peut-être parfois, il faut passer par des phases, mais finalement, si tu regardes la vie même des gens qui sont pas athlètes de haut niveau, tout le monde passe par des phases des fois plus difficiles, plus compliquées, et plus on va vers l'excellence, eh ben plus tout est mis en lumière. Des fois, je prends l'exemple d'une Clio et d'une Formule 1. Dans une Formule 1, tu rates ton virage de 3 degrés, t'es dans le mur. Au volant de ta Clio à 90 km/h, tu rates ton virage de 3 degrés, ça secoue un peu la voiture, mais tout va bien. Donc plus tu vas vers la haute performance, plus en effet tu vas avoir 2-3 vagues. Mais après, tu vas aussi vivre des choses hors normes. Moi, j'estime aussi que entre 16 ans et 22, 23 ans, j'ai quand même vécu des choses hors normes. Je garde des excellents souvenirs aussi, hein, bien sûr. Donc, voilà, ça passe par ces phases-là et c'est pas grave. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de préparer les athlètes à ça. Les athlètes sont de plus en plus demandeurs, hein, de préparation mentale. J'ai été surprise, j'ai de plus en plus de demandes de jeunes. Je travaille très peu, je travaille essentiellement avec les sportifs professionnels. Mais j'ai de plus en plus de demandes de jeunes et à la base je voulais pas forcément trop, puis je me suis dit ouais mais si c'est peut-être donner une chance aussi à un jeune qui est déjà un petit peu dans ce cursus là de se préparer et voilà, donc c'est pour ça que j'ai accepté voilà sur un certain nombre de pool de jeunes en fait sur lequel voilà on travaille parce que c'est bien qu'ils aient cette démarche là, c'est bien qu'ils aient cette démarche là ou que les parents l'aient aussi, c'est-à-dire que les parents soient conscients aussi de son détachement. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est un petit peu sous couvert de leurs parents, mais au moins les parents ont eu cette démarche de dire c'est pas à nous de le faire, et il y a des spécialistes pour ça. Et des fois on voit des jeunes qui ont tiens que 14-15 ans et limite c'est presque leur agent de poche qui mettent dans un préparateur mental. Donc on essaie bon de s'arranger un petit peu parce que voilà je veux qu'ils puissent être à la fois acteurs, mais je veux que voilà ils se soient pas contraignant pour eux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tellement parlé que j'en ai oublié la question, mais oui, c'est le sport de haut niveau a ses exigences, et là où il y a de l'exigence, il y a forcément une nécessité de voilà, tout se voit très vite et c'est l'avantage. C'est l'avantage aussi parce qu'on peut vite corriger.
Ouais. Et tu penses que c'est vu qu'on parlait d'énéagramme un petit peu tout à l'heure, est-ce que tu penses justement que n'importe quel profil énéagramme ou n'importe quel type de personnalité peut devenir athlète de haut niveau? C'est quand même une dimension à vouloir l'esprit de compétition, une dimension à la résilience, à la détermination, tu vois, qui correspond pas à tout le monde, tu vois. Je pose une question en l'air, tu vois, j'avais pas du tout prévu de la poser, mais
ouais,
je serais curieux d'avoir ton avis, et toi qui connais bien les tout enfin ces différents sujets là.
Oui, alors tous les profils peuvent être champion olympique ou champion du monde ou athlète de haut niveau. Tous les profils, ouais. Parce qu'en fait, un profil qui est ce qu'on appelle la maturité, il arrive à avoir les bonnes intégrations, les bonnes désintégrations en allant piocher dans chacun des profils ce qui va le nourrir. Ensuite, ok, être compétiteur bourrin, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Je vais prendre un exemple d'un profil 5, calme, analytique, sachant, savant. Ça, c'est avantages, ça, c'est inconvénients, mais ça peut créer de la haute performance. Ça peut créer vraiment de la haute performance. Et quand tu t'amuses un petit peu à observer certains profils, oui, quoi qu'il en soit, il y a cette envie de réussir. Mais c'est pas parce que t'es un 9 médiateur, par exemple, que t'as pas envie de réussir dans la vie. Ça n'a rien à voir. Tu peux être une pièce motrice dans un vestiaire, tu peux être un capitaine d'une grande équipe, et au contraire, être capable de prendre les meilleures décisions sur le terrain, parce que voilà, les gens s'enflamment pas. Je travaille avec le centre de formation de Clermont Foot et de l'ASM, et on avait travaillé un petit peu avec c'était avec trois joueurs avec qui on avait travaillé sur les profils psycho-émotionnels, parce qu'ils jouaient à des postes complémentaires, et on s'était amusé, on avait fait un jeu, et je te laisse imaginer des rugbyman, et il y en a un qui avait un profil et l'autre lui dit mais t'es une tapette en fait. C'est tapette ton profil. Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Voilà, c'est venu, mais toi, t'es un goujat avec ton profil. Enfin, il s'était amusé à se chambrer par rapport à ça. Et quoi qu'il en soit, il n'y en a pas un qui est moins performant ou plus performant. C'est juste que chacun a une méthodologie d'optimisation de la performance qui va être très différent. Certains vont être plus émotionnels, d'autres plus intuitifs, d'autres plus intellectuels. On a les trois en nous, mais avec des jauges très différentes. Et en fait, ça veut dire qu'il va y avoir des consignes différentes. Pour donner cet exemple qui est assez drôle, je prends ces deux joueurs. C'est sûr que si je travaille avec l'un en lui disant le dialogue de l'autre, il va y avoir totalement une contre-performance, totalement. Donc il faut qu'ils se connaissent et tous les profils, et quand on fait la cartographie mentale d'un vestiaire, mais tu t'aperçois qu'en fait il y a plein de profils, et d'ailleurs vaut mieux, parce que tu mets que des 8 ensemble, enfin que des ce qu'on appelle les 8. Alors ça, on part dans notre jargon, mais pour les auditeurs, c'est des profils très leaders, très dominants. T'en mets 10 comme ça dans un vestiaire, bah bon courage, hein. ça fera pas quelque chose de forcément très bon, hein.
Ouais. Je me posais la question, tu vois, je reviens un petit peu sur toi, ton parcours, et effectivement ces années peut-être un petit peu plus compliquées, et dans lesquelles tu te cherchais plus, en tout cas on peut dire. Tu vois, maintenant on parle de plein d'outils, on a parlé Enneagramme, on parle visualisation, on parle de routine, on parle de plein d'autres sujets. J'ai l'impression que tu vois, c'est aujourd'hui, on connaît quand même beaucoup mieux le cerveau humain et il y a eu beaucoup plus de choses surtout qui ont été testées sur les athlètes. Et pourtant, tu vois, j'entends comme je te disais, j'entends toujours parler effectivement de burn-out et toutes choses un peu comme ça. Est-ce que toi, tu vois, de ton point de vue, vu que t'es passé d'athlète à, on va dire, de l'autre côté de la barrière à accompagnant, est-ce que tu vois que c'est vraiment des gros projets et quelles sont un peu les perspectives que tu vois sur le sport de haut niveau? Parce que je sais pas si toi t'as été accompagné, tu vois, psychologiquement quand t'étais plus jeune, mais tu vois, j'ai interviewé il y a quelques jours Brice Guyard. Bon, lui il fait de l'escrime, double champion olympique, tu vois, au top du top niveau. Il dit, j'ai jamais eu de préparateur mental, enfin tu vois, j'ai jamais connu ça. Et il a quoi? Il a à peine 40 ans, donc il y a une grosse évolution, tu vois. Et sur quoi ça nous ouvre aussi?
Alors, c'est vrai que c'était peu connu, la préparation mentale, à l'époque. C'était même pas bien vu. Ça fait gourou, ça fait l'athlète, il a un problème. Donc, quelque part, non, il n'y avait pas. Enfin, moi, à l'époque, j'ai pas été accompagnée par un préparateur mental. Je me suis juste rendu compte après, avec le recul, que indirectement, inconsciemment, presque d'une manière autodidacte, je me faisais régulièrement de la préparation mentale sans le savoir, dans la fixation d'objectifs, dans la visualisation, dans les routines de performance, je le faisais intuitivement, mais j'étais pas accompagnée par un spécialiste, ce qui est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais ça s'appelle aussi les évolutions, comme à l'époque, voilà, certains matériels n'existaient pas, comme je sais pas, certaines unités de récupération, la cryo, tout ça, ça n'existait pas. Donc en fait, ça fait partie des évolutions du sport qui aujourd'hui vont devenir incontournables. Il y a 30 ans en arrière, avoir des préparateurs physiques, bon bah non, c'est bon, c'est l'entraîneur qui fait tout. Aujourd'hui, il y a aucun club, je prends l'exemple des sports de sport co, dans les clubs professionnels, qui n'a pas un préparateur physique attitré. Ça n'existe pas. Moi, je pense que d'ici quelques années, ce sera normal d'avoir un préparateur mental. Voilà, ce qui était peut-être pas le cas il y a 10 ans, ce qui était peut-être pas, ce qui commence à être de plus en plus le cas, hein, on le voit. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les évolutions du sport. Et non, moi à l'époque, il y avait pas. Mais c'était même pas un métier. C'est les métiers qui arrivent en fonction du besoin et de l'évolution.
Ouais. Et est-ce que t'es d'accord, tu vois, avec ce postulat que j'entendais un grand coach dire que physiquement, on a fait énormément de recherches sur le corps humain et qu'on a quand même fait aujourd'hui, on aurait accumulé soi-disant 99% du savoir qu'on peut avoir un peu sur la prépa physique, la récupération, et qu'aujourd'hui la grosse découverte et le gros levier de progression, c'est le mental, et que du coup il va peut-être sûrement y avoir beaucoup de changements de performance, enfin d'évolution dans la performance grâce à ça, tu vois. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu partages?
Ouais, je rejoins à 100%. C'était aussi Olivier Crumbles qui est entraîneur de l'équipe de France de hand en féminin. Il disait, au 21e siècle, le sport sera mental, parce que c'est vrai que en termes de physiologie pure de l'entraînement, je veux dire, les méthodes, elles sont encore un peu à affiner, elles sont encore un petit peu à peaufiner, mais je veux dire, les gros fondamentaux sont posés, la VMA, le seuil, c'est sur ça. D'un point de vue tactique, aujourd'hui, on peut pas réinventer la roue non plus. Il y a des tactiques, on essaie d'affiner, on fait la vidéo, il y a des équipes qui travaillent sur la vidéo, de tactique. D'un point de vue technique, en coureur à pied, la foulée parfaite, elle est travaillée, on sait ce qu'il faut faire. Donc ça veut dire qu'en gros, les deux grandes unités qui restent, on le voit, c'est au niveau de l'unité de récupération, apparemment, au niveau cellulaire, il y a moyen de rebooster encore un petit peu au niveau cellulaire. Aussi, il y a les principes de micronutrition, il y a tout ce principe-là, en restant dans des bonnes règles éthiques, bien sûr, mais voilà. Et ensuite, il y a l'aspect mental. L'aspect mental, il est tellement peu exploité, il y a encore tellement à faire, et j'ai l'impression que c'est tellement sans limite. C'est sans limite parce que c'est tellement du sur-mesure athlète par athlète, et l'athlète évoluant, ça veut dire que les techniques mentales évoluent aussi avec lui. Ça veut dire que ce qui marchait mentalement sur un athlète quand il avait, il y a 4-5 ans, ce même athlète qui a pris de la bouteille, qui a pris de l'expérience, qui a pris... Ça va être différent. Il va falloir qu'il fasse évoluer sa boîte à outils, son appréhension de compétition. Ça veut dire que tout ça va devoir évoluer. Un exemple tout bête. un athlète qui, on a travaillé avec un vététiste sur le fait, disait, il arrivait en fait, c'était le petit junior, il arrivait en outsider, il arrivait sur les coupes du monde en senior, quelque part c'était le rookie, l'insouciant, c'est-à-dire que c'est l'outsider. Personne l'attend, boum, il fait une super saison, nickel. L'année d'après, il peut pas se remettre dans la peau du rookie, de l'outsider, de personne l'attend puisque tout le monde l'attend. Donc ça veut dire que mentalement, il va falloir qu'il fasse évoluer sa carte mentale. On est passé de oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, t'es un jeune, sur un malentendu, ça va passer, à la Jean-Claude Dux, à là maintenant, tout le monde veut ta peau. Donc ça veut dire qu'en gros, même s'il se dit ok, je vais dans l'insouciance, on va garder ces mots-clés là, mais c'est plus pareil. Donc on est obligé de le faire évoluer. On est obligé de faire évoluer ça. Un athlète qui, pareil, se bat toute une Olympiade pour avoir sa médaille olympique. Ok, il a sa médaille olympique. Ok. Ah bah et maintenant, bah ça va être quoi mon objectif? En avoir une deuxième, ouais, mais ça fait pas pareil. C'est pas pareil. Donc on va devoir faire évoluer systématiquement, constamment les choses. Donc c'est pour ça que le mental, il est sans limite. Et ensuite toutes les technologies qu'on peut voir, enfin les techniques plus que technologies, parce qu'en imagerie mentale, on commence à avoir quand même beaucoup des imageries mentales, d'IRM, d'encéphalogramme. Donc on peut commencer en plus à forcément mettre la science dedans. Moi, je suis passionnée des neurosciences, hein. J'ai à la base d'un parcours très scientifique. On se rend compte aussi au niveau biochimique qu'il se passe des choses. On voit aussi des techniques comme, alors il y a hypnose, état de conscience modifié. On voit également aussi toutes les techniques un peu de sophrologie. On voit, il y a plein de techniques. Alors, comme on dit, hein, c'est un peu le bric-à-brac aussi dans tout ça. Parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bien fait, il y a du mal fait. Hein, on va pas se mentir, mais il y a quand même tout à exploiter et il y a de la place vraiment pour tout le monde pour le coup aussi.
Ouais, c'est vrai. Non, et puis j'ai beaucoup de reconnaissance en tout cas, tu vois, avec les personnes un peu comme toi qui font un peu les passerelles entre le monde sportif et le monde professionnel, parce que, ou même le monde un peu plus civil, tu vois, un peu plus normal, parce que sans vouloir être champion du monde et sans vouloir effectivement aller chercher la médaille d'or et le podium, l'hymne national et la télé, on peut juste envie de se réveiller tous les matins en étant un peu plus heureux, une meilleure version de soi-même, et ça passe aussi par là, quoi. Ça passe aussi par ça passe exactement par les mêmes exercices.
Ouais, complètement. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas aimé travailler qu'avec des athlètes, des sportifs, du monde du sport. Ce que j'aime bien, moi, ça a toujours été, et j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est transposer. J'adore prendre quelque chose et le transposer. Je trouve que c'est, il y a tellement à apprendre de chaque milieu et à transposer dans différents milieux, parce qu'il y a toujours du bon. J'ai fonctionné même comme ça dans ma carrière en tant que triathlète. J'ai du triathlon, mais j'ai été rouler avec des vrais cyclistes, parce qu'il y a quelque chose à transposer dans le triathlon. L'idée, c'était pas d'être une cycliste, mais il y a quelque chose à transposer. J'ai nagé en club de natation avec parfois des stages purement natation avec que des nageurs, des vraies séries de nageurs, parce qu'il y a à apprendre. Donc moi, je parle toujours de ce principe de transposer, ça me paraît hyper important, et ensuite d'adapter. Et c'est vrai que moi, mon activité, il y a une partie qui est axée sur le sport de haut niveau, le monde du sport, le sportif, mais il y a toute une partie qui est beaucoup faite sur le dirigeant, le cadre, le manager. Je vais pas dire le monsieur, madame, tout le monde, mais si, le monsieur, madame, tout le monde qui a envie de s'accomplir personnellement, professionnellement. Et finalement, ça touche tout le monde. Et comme je dis, je pense que en chacun de nous, sommeille un champion et sommeille un potentiel plus grand qu'on l'imagine. Et que finalement, voilà, l'exploiter, c'est juste une connaissance de soi, c'est juste l'apprentissage de quelques outils, c'est de l'entraînement. Et ces outils-là, moi, j'aime les apporter finalement dans la vie de tous les jours, pour tout le monde, pour un entrepreneur, parce qu'on est tous soumis aux mêmes problématiques. Un sportif de haut niveau, un dirigeant, une mère de famille, un entrepreneur, un cadre, un manager, un salarié, il est soumis à devoir se fixer des objectifs, à mettre de la clarté, de la connaissance sur lui-même. Il est amené à mettre en place, alors on appelle ça routine de performance dans le sport, mais des processus qui vont l'aider à atteindre ses objectifs. Il doit apprendre à se concentrer, il doit apprendre à gérer son stress, ses émotions, il doit être capable de prendre des décisions, finalement, c'est les mêmes outils de la préparation mentale du sport à transposer. Et les exercices, ça peut être exactement les mêmes. Des fois, quand je suis en consultation, pour les sportifs, volontairement, je leur donne des exemples de chefs d'entreprise. Tu vois, avec tel champ d'entreprise, on avait travaillé ça, parce qu'ils étaient bloqués sur ça. Pour qu'ils disent, ah ouais, mais en fait, ouais, c'est pas, ça les sort un peu du monde de que le sport. Et des fois, pour les chefs d'entreprise, Je leur donne des exemples. OK, avec tel sportif, tu vois, il raisonnait comme ça, on s'est rendu compte que ça, ça, pour qu'il le transpose pour lui. Alors, des fois, pour des sportifs, je prends des exemples de d'autres sportifs, pour des dirigeants ou chefs d'entreprise, je prends des exemples, mais j'adore croiser et c'est hyper nourrissant pour les uns comme pour les autres.
Ouais.
Et ça fait même aussi prendre conscience aux sportifs de haut niveau que quand ils vont être dans la vie d'après, mais en fait, ça peut être des machines mentalement, ils auront quelque chose en plus, quoi. Ils auront ce petit plus. Ils l'auront, ce petit plus. Et ça fait aussi prendre conscience, finalement, aux gens que je vais accompagner en particulier, sur les particuliers, que finalement, eux aussi, c'est comme, ils sont comme des sportifs de haut niveau. Ils sont pareils. C'est juste que le sport, la discipline, c'est juste le moyen. C'est un quoi? C'est pas plus difficile d'être, je sais pas, de faire du triathlon que de faire du bilboquet ou de gérer une entreprise avec 5000 salariés. Il y a rien qui est, tout est à égalité pour moi.
Ok. Et peut-être du coup, ouais, question là sur ton activité, tu t'accompagnes autant de sportifs que de chefs d'entreprise?
Alors, c'est toujours à l'approche des jeux ou loin des jeux. Juste après les jeux, remarque, j'étais surprise parce qu'il y a beaucoup de demandes maintenant aujourd'hui même à l'issue des jeux. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, les gens commencent à comprendre que voilà, Paris 2024, c'est maintenant que ça commence, quoi. C'est que ça commence maintenant, surtout qu'en plus, il y a une année de moins par rapport aux Olympiades classiques. Et ensuite, ouais, je veux dire que j'ai quasiment moitié-moitié. J'ai quasiment moitié-moitié en termes d'accompagnement individuel. Et après, ce que je fais beaucoup, un des cœurs de mon activité, c'est aussi tout ce qui est les formations, les séminaires et les conférences au sein des entreprises. Ouais. Où là, finalement, j'apporte finalement les outils de la préparation mentale sur des formations ou des conférences au sein des entreprises. Mais on va dire que sur la partie purement accompagnement, on est quasiment sur du moitié-moitié, ouais.
Ok, super, super intéressant. Je fais un petit peu une transition pas très habile, mais je voulais quand même en parler avec toi et aborder ce sujet. C'était la fin de ta carrière qui t'a poussé à avoir une reconversion assez brutale, on va dire, puisque alors il me semble que c'était en 2013, dis-moi si je me trompe, mais on t'apprend un petit peu après un accident que t'as une tumeur au cerveau, c'est bien ça?
Ouais, exact. Alors, c'était le 31 août 2013. Tu vois, c'est les 1 et les 3, décidément. Donc, qui sont deux chiffres que j'aime bien, pourtant. mais dans l'idée, en fait, voilà, c'est vrai. Alors, déjà, ce que j'aime bien en venir toujours, c'est quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, il y a une question qui m'est de suite venue. C'est, ça s'arrête comment, une carrière? Ouais. T'arrêtes comment? Est-ce qu'un jour, on te dit, vas-y, t'es nul, arrête, quoi. Est-ce qu'un jour, tu te dis, toi, je crois qu'il faut que j'arrête? Est-ce que tu te lèves un matin en disant, non, j'ai plus envie? Est-ce que c'est à l'aube d'une saison où tu te dis, c'est ma dernière saison? Et je me suis toujours posé cette question, comment ça se fait? Alors moi, je me dis, je sais pas comment ça se passera, moi. Et puis, en fait, c'était en plein été, et en plus, c'était en pleine saison, et j'avais quelques symptômes un petit peu dérangeants. J'étais pas forcément au mieux, c'était compliqué et en fait j'ai passé des tas d'examens et en fait enfin j'avais fait un malaise et à l'issue d'une course et en fait j'ai passé des examens et on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Alors comme je dis parfois hein, il est 9h47, tu passes dans le tunnel de l'IRM, 10h12 ta carrière elle est finie, quoi. C'est en l'espace de 30 minutes ta carrière elle est terminée. Ouais. C'est quelque chose d'extérieur qui décide que c'est terminé. C'est un peu dur parce que quelque part j'aurais fini.
Je n'attendais pas du tout à avoir une aussi mauvaise nouvelle à ce moment-là.
Ouais, non, on s'y attend pas. Alors ouais. C'est paradoxal parce que des fois on se dit ouais je vais pas terrible. Alors je sais bien que j'ai quelque chose, tu vois, je suis pas hypochondriaque, mais ouais tu t'attends pas le diagnostic tumeur au cerveau, quoi. Dis si on pouvait juste me dire que je suis en carence en fer ou un truc à la con comme ça m'arrangerait, quoi. Je mangerais du boudin et des lentilles et puis tout irait bien, quoi. Mais ouais. Moi je voyais bien que c'était un peu plus complexe que ça quand même. Je voyais que c'était pas. J'étais pas juste un peu essoufflé, fatigué, et donc du coup non, c'est le diagnostic, il est dur, quoi. Il est voilà, vous avez une tumeur au cerveau, et il y a vraiment deux choses, c'est-à-dire que là c'est pas des états d'âme, là c'est tu vis ou tu meurs, hein. c'est vivre ou mourir, hein. Il y a pas trop d'alternatives, donc j'ai passé des examens un petit peu complémentaires. Alors comme on dit, hein, sportifs ont rien dans la tête. Moi, j'avais quand même beaucoup d'habitants, donc c'était pas ce que je souhaitais, c'était pas ceux du village que j'attendais. Mais dans l'idée, c'était de se dire, ok, on va passer des examens complémentaires, et puis on va un petit peu savoir quelles sont les parties bénignes, les parties malignes, hein, en termes de tumeurs, et puis. Voilà, j'ai eu quand même le moins craignose d'un truc pas terrible. Aujourd'hui, je suis là. Moi, je remercie vraiment la vie de pas m'avoir donné le coup fatal. Mais quelque part, quand tu t'effaces à un moment donné, hein, tu restes à l'attente du diagnostic, t'es hospitalisé pendant une semaine, tu sais pas encore trop, et t'es quand même un petit peu, je vais pas dire face à la mort, mais tu prends quand même le temps de réfléchir à tout ça. Et waouh, tu te rends compte finalement qu'il y a, ouais, que ça tient à pas grand chose et que bon, tout peut basculer vite. Et ce que j'ai eu le plus de mal, moi, c'est l'injustice, parce que quelque part, quand j'aurais fumé 5 paquets de clopes par jour et on m'annonce un cancer des poumons, bon, tu joues, t'as joué, t'as perdu, quoi. Une tumeur au cerveau à 30 ans, quand t'as une bonne hygiène de vie, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas cool, quoi. Et pourtant, alors, j'avais pour moi préparé l'après. Puisque j'étais une des rares athlètes à continuer à faire des études pendant ma carrière. Donc moi, là-bas, j'ai une licence en physiologie de l'entraînement. Après, j'ai basculé sur des études dans la diététique et la nutrition et j'ai souhaité pousser un peu plus et j'ai réintégré un cursus de médecine pharma sur tout ce qui était biochimie, neurobiologie. Parce que j'étais fascinée sur comment fonctionne chimiquement le corps. Et
après le fait que t'apprennes cette nouvelle médicale.
Non, c'était avant. J'étais quand même déjà fascinée par le corps, la chimie du corps, qu'est-ce qui se passait. Et après cette tumeur là, finalement, j'avais quand même pour moi préparé l'après, j'avais des diplômes, j'avais aussi un environnement très sain autour de moi. Voilà, j'avais que ce soit mon staff technique, staff sportif, mes parents, j'avais cet environnement très sain. Et malgré tout, ça a été très compliqué. Ça a été quand même une forme de descente aux enfers parce que du jour au lendemain, on t'enlève un peu ton quotidien. Et ça paraît bête, mais c'était mon quotidien, moi, d'être athlète de haut niveau. C'est ce qui faisait sens pour moi parce que ça remontait à même plus loin. Enfin, je crois que je le disais précédemment, j'étais dyslexique et le sport a été pour moi un moyen d'expression. C'est ce qui m'a permis de m'exprimer. Et finalement, du jour au lendemain, quelque chose d'injuste vient te supprimer ce qui faisait sens pour toi. Et là, tu te dis, mais waouh, c'est dur à vivre. Et ça, c'est presque ça qui a été le plus compliqué. Et je me rappelle d'une phrase, hein, mon entraîneur m'a dit, c'est ok, on va pas applaudir dès demain, on va pas dire c'est génial. Dans quelques années, on dira c'était peut-être t'as réussi à transformer ce qui t'est arrivé en une opportunité. Mais à l'instant T, t'es pas en train de dire c'est une belle opportunité. À l'instant T, t'as le coup de massue. Et il m'a dit, c'est peut-être tout simplement que, en fait, ouais, il restait quelques petits trucs sympas à faire en triathlon, il te restait, ouais, peut-être 4-5 saisons sympas à faire, mais c'est peut-être que la vie, elle a décidé que t'étais prête pour la suite, quoi. Voilà. C'est que finalement, le sport, c'est peut-être maintenant qu'il faut l'arrêter et voilà. Et le plus dur, ça a été de trouver du sens. Et c'est là où finalement la psychologie je me suis énormément intéressée. Je me rendais compte que finalement, j'avais déjà lu plein de bouquins de psycho, même quand j'étais athlète, sans vraiment l'étudier. Et là, je me suis dit, je crois que c'est vraiment à ça que j'ai envie de me former. Des fois, on dit souvent les psychologues, les coachs, les préparateurs mentaux, c'est des fois quelque part, c'est jamais par hasard qu'on a étudié ça et je me suis rendu compte que c'était peut-être c'est ça qui a été le déclic pour vraiment décider d'en faire mon métier. Il a fallu passer les études, il a fallu ensuite faire un peu ses armes. J'ai bossé moi pour un cabinet en amont et puis après je me suis tout simplement mis à mon compte parce que j'avais envie de vivre cette aventure dans l'entrepreneuriat.
OK. Mais je peux le comprendre, ouais. Et je me demandais en fait est-ce que c'est t'as dit que le plus dur c'était effectivement le fait que ça soit brutal et que du jour au lendemain tout s'arrête et on n'a pas forcément prévu la suite. Je me suis posé la question du regard des gens aussi au début, enfin avant, t'es le centre d'attention un peu de tout le monde, t'es une athlète de haut niveau, comme tu le dis, vous êtes très accompagné dans le but de gagner, d'avoir la médaille et tout. Et on vous voit un peu aussi comme invincible, hein, de la part des yeux du public, de la part de vos yeux, enfin aux yeux de vos des accompagnants aussi. Et du jour au lendemain, t'es en danger de mort. et le regard des gens change beaucoup à ce moment-là?
Alors, il y a plusieurs, enfin, moi, j'entends plusieurs questions dans ce que tu dis. Donc, déjà, moi, je m'étais beaucoup préservée de ce côté bling-bling et surfait de, d'exister au travers de son sport, de, d'exister un petit peu. C'est vrai qu'en plus, à l'époque, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça fait toujours dire, à l'époque, ouais, on a l'impression que c'était jadis, alors que j'ai même pas encore 40 ans. Mais déjà, voilà. Donc, moi, je m'étais déjà un peu préservée de tout ça. Déjà, j'ai pas eu trop de déception par rapport à ça, puisque j'avais déjà vécu le fait d'avoir moi le burn-out, vraiment le burn-out du sportif, c'est-à-dire le chaos total où tu te réveilles à l'hosto, tu dis waouh, s'il s'est passé quoi, bah vous avez voilà, vous avez chuté, alors que tu faisais rien, t'étais chez toi. Et donc du coup, j'avais déjà vu ce que c'était qu'une saison blanche, et où au final, tu sais que t'es très vite oublié. Et pareil, c'est le jeu. Je veux dire, t'es les gens rêvent à un instant T, et on est tous pareils aujourd'hui. Est-ce que t'es capable de citer les 22 joueurs qui étaient présents à la Coupe du Monde 98? Bah, tu vas en citer quelques-uns. Il y en a quelques-uns. T'es plus très sûr de ton coup. T'étais pas forcément capable de citer qui a été médaillé d'argent des premiers Jeux Olympiques à Sydney en triathlon. Ah, on les a pas forcément. Donc, c'est normal, en fait. Tout simplement, on oubliait et très vite. Parce qu'on est plus sur le devant. Mais ça, moi, je m'étais très préservé à ça. J'ai jamais été déçu de ça parce que je savais que voilà, et j'ai toujours beaucoup préservé moi une cellule, une forme de tribu, de staff, pour justement pas jamais avoir à gérer cette pression là, jamais se laisser un petit peu happer par le chant des sirènes, tout ça, de prendre le melon, quoi que ce soit. Donc moi, j'étais bien préservée par rapport à ça. Et après, j'avais pas envie d'avoir de la pitié des gens. C'est pas ce dont j'avais besoin. Je sais pas qui n'était plus là. Moi, je me souviens juste qui a été là. C'est ça qui est le plus important. Et c'est assez paradoxal parce que au moment où t'as la tumeur, tout le monde a peur pour toi. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est les gens proches, hein, les autres personnes. Bon, bah oui, les gens ont de l'empathie, donc ils sont tristes pour toi. Mais les gens, en fait, ton entourage a peur. Ils ont peur. Ils se disent, waouh. Et moi, à ce moment-là, quand on m'a annoncé tous les traitements qu'il y avait à faire, j'étais un petit peu encore câblé en me disant bah ok, faire comme dans le sport, c'est juste une compète avec des échéances. Et j'ai comme si j'avais accroché un dossard, je me dis ok, tu sais que t'as X traitements toutes les 4 à 6 semaines, qu'entre chaque traitement t'as des phases de contrôle avec d'autres traitements à prendre entre, et finalement bah boum, c'était dans cette routine là et là où l'entourage voilà stresse pour toi, bah toi tu dis non mais enfin ça va, non ça va pas, mais finalement voilà t'es dans l'action. Et le plus dur, ça a été quand, au mois d'avril, donc 8-9 mois plus tard, les médecins m'ont dit, bah, ok, voilà, alors vous êtes guéri, enfin partiellement, puisque votre tumeur, on peut pas prendre le risque de l'opérer, elle va, vous l'avez en vous, vous restez, voilà, donc j'ai une boule dans le cerveau, c'est voilà, au quotidien. Vous allez avoir quelques séquelles, voilà, donc bon, bah, des séquelles, j'en ai, mais on veut tout à fait vivre avec, ça me gêne pas du tout dans mon quotidien. Et voilà, vous êtes tiré d'affaire, vous aurez juste un contrôle tous les 6 mois et puis ensuite tous les 1 an pour vérifier ça. Et finalement, bah ouf, voilà, ça y est, vous pouvez sourire à la vie. Et là, moi, ça a été horrible. Là où finalement, tout ton entourage te fait limite, tu nous as fait peur, hein, limite sur ça. Toi, tu te dis, et maintenant quoi? Et maintenant, et maintenant quoi? Ouais. Et ben, qu'est-ce qui va me refaire vibrer? Tu connais. D'avoir vibré, d'avoir été applaudi, tu connais d'avoir vibré émotionnellement. Quand je te disais en début de podcast, voilà, moi j'ai été championne du monde, donc je sais ce que c'est que d'avoir une Marseillaise en ton nom avec ton drapeau et d'avoir les larmes qui coulent. Et tu te dis, mais ça, peut-être je le revivrai plus jamais. Enfin, je veux dire, dans mon quotidien, on me met pas un podium sur la place du village et on me fait pas la Marseillaise parce que voilà, j'ai sorti les poubelles, quoi. il se passe rien de tout ça, quoi. Donc ça a été en me disant, mais qu'est-ce qui va me refaire vibrer un jour, quoi? C'est waouh. Et voilà, et c'est là où il a fallu se reconstruire le projet professionnel et se rendre compte que peut-être il passerait par la transmission, il passerait par le fait d'être en coulisses, le fait d'aider des personnes, ne pas faire l'erreur de transférer sur les autres, parce que c'est les autres, mon histoire c'est mon histoire et leur histoire c'est la leur, mais tout simplement être peut-être un petit caillou sur leur à la construction de leur édifice. Voilà, moi c'était ça qui m'a dit, mais je crois que ça je vibrerai. Et je me souviens parfois d'athlètes aujourd'hui, avec les lives internet, on peut suivre toutes les épreuves de Coupe du Monde de plein de disciplines. Et ça m'arrive, moi, des fois, sur des week-ends, de me lever la nuit parce que j'ai un athlète qui court aux États-Unis et de pleurer quand ça marche pour lui. Tokyo, c'était galère. Il y avait le jet lag, donc c'était pas facile. mais voilà, on a pu gérer sur ça. De voir parfois aussi, même au-delà du sport, de voir un chef d'entreprise qui aujourd'hui s'accomplit et dans sa posture est heureux de diriger son entreprise, voit ses salariés s'émanciper. Voilà, moi c'est ça aujourd'hui qui me donne, tu vois, même quand j'en parle, j'en ai la chair de poule. C'est ça, moi, c'est de voir quelqu'un aussi qui croyait pas en lui ou on ne croyait pas en lui et finalement atteindre ses rêves. Je crois que c'est la plus belle chose, c'est d'arriver à croire que tout est possible, quoi. Ouais, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui.
Bon, mais écoute, très chouette. Et je vois que t'as fait beaucoup de chemin et que tu sembles très très aligné aujourd'hui comme personne. C'est très inspirant, je trouve.
Merci.
Pour les gens comme moi et vu qu'on est dans des écosystèmes un peu similaires.
Similaires, bien sûr.
Et bon, je voulais pas faire trop long, mais je vois que le temps file déjà super vite. On a abordé tout un tas de sujets et moi je me suis régalé, mais alors à la limite pourquoi pas on organisera quelque chose, une suite ou un deuxième épisode,
bien sûr, un tome 2 ou un tome 2 autour d'un café des fois, tu sais.
Exactement, avec grand plaisir. Des fois j'oublie de poser mes petites questions de la fin, mais là j'ai vraiment très envie de te les poser. C'est un peu des questions, voilà, auxquelles tu peux, des questions de personnalité auxquelles tu peux
répondre en flash. Allez, ouais, dis-moi,
vas-y. La première, c'est de savoir, c'est quoi une bonne journée pour toi, une très bonne journée?
La bonne journée, elle est quand je me couche le soir avec la bonne fatigue. Oui. Elle est quand je me lève, la bonne fatigue de sentir que voilà, les intentions que je m'étais données sur la journée, elles sont arrivées. Même si tout ne s'est pas passé comme je voulais, j'ai gardé ces lignes d'intention, ce qu'on a vu en début de podcast. Et oui. Quand finalement, je me lève le matin sans forcer. Peut-être des fois, il manquerait, si je m'écoutais, il me resterait peut-être une petite demi-heure de sommeil par-ci qui ferait pas de mal, mais quand je me lève, déterminée ou contente de me lever, c'est que je sais que j'ai une bonne journée qui m'attend. Et je prends souvent cet exemple, quand on est toujours obligé de repousser le réveil, c'est que, au fond de soi, on se dit, j'ai pas une journée qui m'inspire tant que ça, c'est pour ça que j'ai pas envie de me lever. Donc, voilà, c'est de se lever avec, la hâte d'attaquer la journée. J'ai hâte d'attaquer la journée parce qu'il va se passer plein de petites choses ou peu de choses ou des choses importantes dans ma journée auxquelles j'apporte d'importance et sentir que dans la journée j'ai impacté au moins une personne et que le soir je me couche avec cette forme d'accomplissement d'avoir gardé mes intentions, les intentions que j'avais calées en fonction de mes objectifs.
Ok, super, très super, super inspirant. Est-ce que t'as un gris-gris pour faire baisser la pression ou pour oublier un petit peu le stress dans les moments où il y a de l'enjeu, pour sortir de ta zone de confort?
Alors j'ai un ou des gris-gris que j'adapte en fonction des situations. Ça peut être des phrases à se dire, ça peut être des postures à prendre, ça peut être des choses à visualiser. J'ai pas un gris-gris en particulier. Voilà, je suis pas dépendante d'un gris-gris. J'ai plein de petits outils et je sais que j'adapte en fonction d'eux. Mais l'idée c'est que j'anticipe aussi pour jamais me faire submerger.
Ok, tu peux citer un ou deux exercices ou deux petits outils que tu utilises de temps en temps?
Moi je suis très visuelle, donc j'utilise la visualisation alors soit j'ai visualisé un état mental dans lequel j'ai envie de me sentir, donc si par exemple j'ai envie de me sentir dans un état très relâché, des fois voilà, j'en sais rien, je peux imaginer un petit cochon qui danse, ou je peux imaginer aussi un souvenir de vie que je peux avoir avec mes filles où on avait pris un fou rire. Et ça va me remettre dans une énergie où j'ai envie de me marrer, donc je peux prendre des fous rires dans ma voiture toute seule. Ou alors après, de me recabler sur le moment présent et en me disant, ok, qu'est-ce que là j'ai à faire là maintenant en fait, parce que ce que t'es en train de projeter, c'est pas bon. Et on se rend compte que voilà, c'est d'utiliser l'imagerie mentale pour le vrai peut devenir le faux et comme le faux peut devenir le vrai avec avantages inconvénients. Donc voilà, c'est plus vraiment plus l'imagerie mentale et des fois c'est à l'intuition, c'est tiens, de visualiser ça maintenant, ça m'aide. Et des fois l'image vient toute seule.
Alors la question suivante, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours?
Alors j'ai jamais été fan d'une personne en particulier, mais plutôt de m'inspirer de plusieurs personnes. Déjà, je pense que ce serait normal de dire que toutes les personnes qui ont croisé mon chemin, qui m'ont à un instant T apporté quelque chose à leur manière, sont des personnes inspirantes pour moi. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'accumulation de toutes ces choses-là qui font que j'étais très inspirée par notamment mon dernier entraîneur qui était Pierre Pompili qui m'a finalement bien aidé à cette transition. Mes parents m'inspirent, donc il y a vraiment des amis m'inspirent. Finalement, je vais chercher chez chacun une source d'inspiration. Tu m'inspires, tu vois, l'échange qu'on a eu en amont, je me dis, tiens, waouh, ça, c'est inspirant chez lui. Donc, c'est un exercice mental aussi que d'apprendre à aller voir chez les gens ce qu'il y a d'inspirant chez eux. Et quand on est capable aussi d'aller voir chez les autres ce qui nous inspire, on est capable soi-même de voir chez soi qu'est-ce qu'on a de bien. C'est un exercice un peu sur les forces et les talents. Ensuite, je lis beaucoup de biographies. J'adore lire des biographies. Parce que c'est... Ah ouais, bah tu vois les biographies, bon j'ai beaucoup aimé la biographie de Rafael Nadal, j'ai beaucoup aimé la biographie de Johnny Wilkinson, j'ai beaucoup aimé celle du fondateur de Nike, tu vois Phil Knight. J'adore aussi le bouquin de Claude Onesta, j'adore lire toutes ces biographies, les personnes inspirantes, j'adore les histoires, j'adore les donc quoi, c'est plus toutes ces personnes là, c'est le melting pot de tout, mais pareil, un conseil, c'est vraiment je pense qu'il faut pas il faut aller chercher chez chacun la petite chose, parce que si ça fait écho pour soi, c'est qu'il y a une raison.
Si tu devais donner un conseil à la jeune Marion qui est sur le point de débuter sa première course internationale, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là?
Si je devais me donner un conseil, 30 ans en arrière, je dirais presque crois en fait en tes projets, crois en ton intuition, fais-toi confiance. Si tu vas dans cette direction, c'est que c'est une bonne raison. Voilà, c'est vraiment sur ça. C'est fais confiance. Tout sera pas, non pas parce que c'est facile, difficile, non pas parce que c'est agréable, désagréable, mais parce que ça en vaut juste la peine.
C'est super intéressant ce que tu dis, car quand je pose cette question, et je la pose assez souvent, la question de la confiance en soi, elle est très importante, j'ai l'impression, dans la construction de l'enfant.
Ouais, c'est
un sujet qui revient souvent, à croire que les enfants ont besoin de plus de confiance en eux, quoi.
C'est souvent que quand on est jeune, on cherche des repères, et ce qui est normal, hein, un enfant, pour se construire, il cherche des repères à droite, à gauche. Et en fait, du coup, il va peut-être parfois trop donner de valeur à l'externe et oublier de donner la valeur sur soi. C'est souvent ça, en fait. C'est pour ça que souvent on dit, mais enfant, j'aurais dû plus croire en moi et moins donner de valeur à l'externe, plus me donner ma valeur à moi. C'est pour ça que je pense que souvent ça revient. C'est vraiment un principe en construction psycho, ouais, bien sûr.
Ensuite, j'aurais aimé savoir, est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes souvent pour te donner plus d'énergie?
Il n'y a pas forcément une phrase, c'est moi j'ai un bouquin, alors ce qui est cucu, c'est avec des citations, et en fait chaque matin j'ouvre une citation, je lis la citation et je me dis cette citation elle est arrivée par hasard dans ta tête, ça veut dire qu'en gros aujourd'hui il faut que tu en fasses quelque chose, rien n'est hasard, donc ça veut dire qu'il faut que tu en fasses quelque chose. Et celle de ce matin, en plus elle est archi connue, c'est la citation de Mark Twain, c'est ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. Et voilà. Et chaque matin, je laisse un peu le hasard décider de cette citation.
Et enfin, la toute dernière question que je pose, c'est un peu comme un passage de micro. C'est de savoir quelle est la prochaine personne que tu aimerais écouter pour un prochain épisode du podcast Extraterrien.
Waouh, je l'avais pas lu cette question. je vais faire un espèce de truc bottage en touche. Je crois que c'est alors, t'as encore plus rigolé, tiens. Je crois que toute personne qui, à un moment donné, s'accroche à un rêve et va au bout. Je pense que c'est de pas oublier aussi des gens qui sont tombés dans les oubliettes ou dans les coulisses, à les intéresser aux gens aussi qui ont raté. Parce que dans raté entre guillemets, parce que ça veut dire que quelqu'un qui a raté, il a dû recommencer. Ça n'a jamais été facile, donc il a dû rater. Et si on rebondit sur ce qu'il y a avant, c'est... la prochaine personne que tu rencontres par hasard et qui te fait un effet waouh, cette personne, il faut que je l'aie. Après je t'aurais bien dit Steve Jobs, mais ça va être compliqué, quoi. ça va être compliqué. Ouais, c'était plus par rapport à l'entrepreneuriat, la philosophie de vie, il a une maladie aussi, voilà, je pense que c'était plus dans cette optique là, ouais. Et après ouais, dans le monde du sport, ce qui peut-être intéressant, c'est je te donne Claude Onesta. Allez, un entraîneur ou Olivier Crumbles, ou voilà des coachs qui sont là depuis des années et qui voilà.
Écoute, merci beaucoup d'avoir participé. J'ai vraiment passé un excellent moment et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à avoir cette conversation.
Ouais, c'est super.
Sache que ton parcours m'inspire beaucoup et dans ma reconversion notamment. Et j'espère qu'il en a inspiré le plus grand nombre également. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu prépares pour la suite et je suivrai ça de très près.
Et ben avec grand plaisir et puis ben voilà au plaisir aussi d'échanger de manière informelle aussi sur plein de projets dont on a parlé en coulisses, donc avec grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi. Je sais pas si j'avais été cité par quelqu'un en amont sur un podcast, mais en tout cas merci d'avoir contribué à l'aventure extraterrien.
Et pour la petite histoire, oui, tu avais été cité par plusieurs auditeurs, donc je leur enverrai un petit message pour les remercier.
Ah ok. Et ben voilà, tu me donneras le micro, comme ça je les remercierai parce que c'est grâce à eux finalement.
Oui, merci infiniment et à très vite pour de prochaines aventures.
Merci, bonne aventure et on se recroisera forcément, c'est sûr. Merci Marthe, ciao.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.